Bon, l'intérêt de ces trois œuvres, je crois, c'est d'offrir à chaque fois une manière différente d'aborder l'histoire. Et le choix est finalement assez judicieux. Au début, on se dit toujours, tiens, quel rapport penser l'histoire? Pourquoi Horace? Pourquoi? Puis dès qu'on réfléchit un petit peu, on se rend compte que ça permet, en effet, de réfléchir de manière assez approfondie sur le thème. Alors, je vais d'abord présenter brièvement une espèce de cadre pour chacune des trois œuvres. Cadre qu'il faudra affiner beaucoup dans les séances suivantes, quand on en parlera plus en détail. Bon, dans le cas de Corneille, de quoi s'agit-il avec Horace? Il s'agit d'un événement du passé lointain. Vous connaissez à peu près l'histoire, au moins. Bon, hein, Albe, Rome, tirage au sort, des combattants pour éviter que les villes se détruisent mutuellement. On désigne des combattants qui vont s'affronter. Manque de bol, c'est les Horaces, les Curiaces, la sœur de l'un et la femme de l'autre, etc. Bon, bref, ça tourne mal. Bon, donc, un événement du passé lointain qui permet de mettre en scène, typiquement, c'est une pièce de théâtre, une morale héroïque dont le présupposé, hein, de la démarche de Corneille, c'est que cet événement offre un sens pour ses contemporains, pour son public. Le fait que ça soit arrivé il y a très longtemps, dans un autre monde, hein, n'empêche pas que le public soit supposé de plein pied avec les motivations des protagonistes. L'honneur, le dévouement à la patrie, l'amour conjugal, la quête de la gloire personnelle sont des motivations que Corneille prête à ses personnages, évidemment, mais qui sont censées également offrir un sens clair pour les spectateurs. Donc, ce que propose Corneille, c'est une, si on veut, une lecture d'un événement du passé qui offre un modèle pour ses propres contemporains. À l'arrière-plan de cette entreprise, comme condition de possibilité, il y a donc, si on veut, l'idée d'une, on va dire, d'une invariance essentielle de la nature humaine. L'idéal héroïque présenté par Corneille est à la fois celui de ces nobles romains de l'Antiquité et celui disons, de la cour ou de l'aristocratie de l'époque de Richelieu. Autrement dit, il s'agit là d'une histoire exemplaire. Elle fournit des situations, des actions, des caractères qui peuvent servir de modèle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent servir de modèle? Ça veut dire que cette histoire revêt une signification pratique. Je ne dis pas pratique au sens d'utilitaire, hein, de commode, au sens où un tournevis c'est pratique pour enlever des vis, hein, mais au sens où l'histoire présentée s'offre comme un modèle pour l'action. Pratique, hein, ça vient du grec, praxis, l'action. La pièce n'a pas pour seul but de plaire ou d'émouvoir, même si c'est la finalité première, essentielle du théâtre classique. À la fois, enfin voilà, il faut plaire, il faut émouvoir. On pleurait beaucoup à l'époque quand on allait au théâtre, hein, et maintenant on a des réactions qui sont quand même plus retenues. Mais il y a des livres, il y a des historiens qui ont fait une histoire des larmes, hein, en mettant en évidence le fait qu'une tragédie qui réussit, c'est une tragédie dans laquelle tout le monde sort son mouchoir et pleure à grandes eaux. Donc il y a cet aspect d'émotion, mais hein, il y a également l'idéal d'Horace dans l'art poétique, hein, il faut à la fois plaire et instruire, être utile. Joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable, c'est la traduction d'un vers d'Horace dans l'art poétique. Donc, signification pratique. C'est-à-dire que la pièce doit pas simplement plaire, hein, émouvoir, mais elle doit également inspirer. Elle doit fournir des repères pour la conduite. Elle doit être susceptible, en un sens, d'orienter des choix futurs, hein, en renforçant la conviction des spectateurs, hein, de la valeur, des valeurs héroïques, d'un idéal aristocratique, etc. En ce sens, on pourrait dire que la valeur suprême d'une pièce comme celle-là, c'est celle du bien plutôt que celle du vrai. On glose souvent sur, à partir des textes même d'ailleurs de Corneille, etc., sur la distinction entre le vrai et le vraisemblable. Et c'est vrai que l'auteur classique vise au vraisemblable. Mais si on reste à cette perspective-là, il me semble qu'on manque un aspect qui est fondamental et qui, en un sens, distingue son entreprise des œuvres postérieures qui sont dans le programme. Non seulement on est dans l'ordre du vraisemblable et pas du vrai, hein, il faut que ça fasse vrai, que ça ait l'air vrai, même si c'est pas historiquement assuré, mais on est dans l'ordre du bien plutôt que dans l'ordre du vrai. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre des valeurs. Ce qu'on met en scène, c'est un conflit moral. Un conflit moral de première importance, un conflit moral qui a une signification pour les spectateurs. Le conflit entre, vous savez très bien, vous avez étudié même le Cid en quatrième, donc hein, le conflit entre l'amour et l'honneur, le conflit entre le dévouement à la patrie et la famille, entre la fraternité, les liens du sang et la vertu civique. Et donc, on met en scène un conflit moral et on propose une résolution exemplaire du conflit. Il se passe quelque chose dans la pièce qui offre un sens, qui fait que l'événement a une portée qui dépasse totalement l'histoire romaine et les origines de Rome, pour acquérir une sorte d'universalité. Un Français qui vit sous... là, tout d'un coup, j'ai un doute. Enfin, c'est sous Louis XIV, mais je ne sais pas à quel... je sais pas de quelle année date Horace. Vous le savez par cœur, peut-être. 46. 48. Donc, on est encore sous Louis XIII. N'est-ce pas, hein? Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, Richelieu, c'est un meilleur repère, parce que c'est plus significatif, mais bon, donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, donc, résolution exemplaire pour des spectateurs de l'époque de Louis XIII. Donc, en ce sens, j'y reviendrai, parce que ça me paraît un des axes fondamentaux de la réflexion sur le thème, hein, un événement particulier, un épisode qu'on peut considérer comme mineur de l'histoire de Rome, acquiert une signification universelle. Comment? À travers sa transfiguration par l'art poétique. Alors, quand on arrive à Chateaubriand et au Mur d'Outre Tombe, on entre vraiment dans un autre monde. De ce point de vue-là, malgré tout ce qu'on pourra dire ensuite sur les valeurs qui opposent Chateaubriand et Marx, etc., Chateaubriand et Marx sont du même côté de l'histoire par rapport à Corneille. Il y a une rupture. Il y a un changement d'univers, un changement de monde qui s'opère, plus ou moins à l'époque de Chateaubriand d'ailleurs, hein, et qui le met sur comme une autre planète par rapport à Corneille. Bon, l'aspect le plus frappant de son entreprise, si on compare à Corneille justement, réside dans la perception très vive qu'il a d'un changement historique irrévocable. Autant les spectateurs de Corneille peuvent, au gré de toute une série de ce qui nous apparaît à nous comme des illusions, peuvent se sentir de plein pied avec les Horaces et les Curiaces, et donc en un sens, la durée, la temporalité, la différence des temps historiques est abolie ou suspendue pour les besoins de la cause. Autant, chez Chateaubriand, on assiste à la naissance d'une conscience historique. Dans la mesure où Chateaubriand a conscience que les événements qu'il rapporte, c'est-à-dire en gros la Révolution française, introduit une coupure dans l'histoire humaine. En un sens, il ne le dira pas aussi clairement, mais c'est quelque chose que Tocqueville, en réfléchissant sur la Révolution française, exprimera très clairement, et au fond l'idée est déjà chez Chateaubriand, c'est entre l'Ancien Régime et la Révolution, c'est comme le passage d'une humanité à une autre humanité. Donc il y a une historicité essentielle de la nature humaine. Donc, passage d'un monde à l'autre à travers la Révolution. Il y a un monde ancien qui s'achève, un monde nouveau qui commence. Et par conséquent, ce qui se produit, sous les yeux de Chateaubriand, est exemplaire en un tout autre sens. C'est exemplaire au sens où les événements de France, comme on dit à l'époque de la Révolution, à l'étranger notamment, les événements de France ont une signification universelle, pas dans le registre moral, mais dans, comme c'était le cas chez Corneille, mais dans l'idée que, en un sens, l'histoire humaine est changée par cet événement. Qu'il y a désormais des choses qui appartiennent irrévocablement au passé, qui sont condamnées. En gros, on pourrait dire, hein, l'Europe monarchique est, appartient, dès ce moment-là, au monde passé. Même si elle n'appartiendra au passé que progressivement et pas complètement d'ailleurs. Mais enfin, ce qui se passe, c'est qu'il y a une France féodale, une France d'Ancien Régime, qui est à ce moment-là à la tête, à la pointe avancée de l'histoire humaine, et qui renvoie au passé d'autres formes politiques. Vous m'arrêtez dès que ce que je dis n'est pas clair. Autre différence intéressante, hein, bon, il y a une foule de personnages, évidemment, dans Les Morts d'autres tombes. C'est, hein, une série de portraits, de chapitres courts. D'ailleurs, le programme fait référence à la division en livres de l'ouvrage. Bon, donc, suivant les éditions que vous avez, vous ne retrouvez pas forcément cette division en livres parce que ça a changé suivant les éditions. Et donc, les éditions plus récentes, plus modernes et qui veulent plus fidèles, plus scientifiques, etc., n'ont pas repris une division en livres qui est pas originale, si je puis dire, hein, qui n'appartient pas à l'œuvre. Bon, enfin bref. Enfin bon, il y a un découpage du temps qui permet de se repérer sans problème. Donc, hein, y a une foule de personnages, mais au fond, le personnage principal, c'est la France. Enfin, la France et moi. La France et Chateaubriand. Mais c'est à elle qu'il arrive quelque chose qui a une signification exemplaire pour l'histoire du monde, ou histoire occidentale en tout cas. Aux yeux de Chateaubriand, les mesquineries des comportements particuliers, les particularités des tempéraments, des caractères, les petits épisodes qui peuvent apparaître aux yeux du témoin, du contemporain direct, comme importants, décisifs, significatifs, etc., tout ça, hein, que lui-même aime bien relever, hein, qu'il aime bien raconter, qu'il aime bien rapporter, etc., tout ça s'efface en quelque sorte devant un dessein providentiel qui se manifeste à travers ces événements, et dans une large mesure, malgré ces événements, hein, ou malgré les personnages, malgré les caractères, malgré tous les aléas de l'histoire. Une des idées fondamentales de Chateaubriand, hein, c'est cette idée d'un... en gros, d'une destinée providentielle. Dieu opère quelque chose à travers ce qui se passe en France, quelque chose qui est comme un message adressé par Dieu à toute l'humanité. Hein, donc, point de vue qui n'est pas moral, si on voulait caractériser, à mon avis, point de vue adopté par Chateaubriand, c'est pas forcément, ça n'affleure pas à toutes les pages, évidemment, mais on pourrait dire que c'est le point de vue du jugement dernier. Au sens où l'historien, dans la mesure où il se comporte en historien, on en parlera, c'est complexe, hein, se place du point de vue d'une destinée finale de l'humanité. Vers où tout cela va? À quoi tendent tous ces événements? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'humanité à travers ce qui se passe sous mes yeux, à Paris, à travers les petits conflits plus ou moins mesquins entre les clubs, ce qui se passe à la tribune des Cordeliers, ce qui se passe dans les armées, etc. Donc là, il y a un paradoxe sur lequel on aura aussi, j'espère, à réfléchir, de la situation du témoin que veut être Chateaubriand, qui est à la fois contemporain des événements et donc immergé dans tous ces aléas, dans toutes ces particularités, singularités des événements, des hommes, des caractères, des circonstances, et en même temps, il se veut hors du temps, puisqu'il arrive à dégager un sens global de ces événements. Quelque chose qui, normalement, échappe à la perception du témoin, hein, suivant l'idée bien connue, hein, mais enfin, selon laquelle bon, le sens des événements, des faits accomplis, est beaucoup plus facile à distinguer que celui des faits en train de s'accomplir. Si vous voulez une citation, puisque je crois qu'on est friand de citations en prépa, un historien du 19e siècle, enfin début 20e, Fustel de Coulanges, hein, disait « Les faits accomplis se présentent à nous avec une bien autre netteté que les faits en voie d'accomplissement. » Bon, c'est une espèce de banalité, pas si banale en fond, parce que battue en brèche par l'histoire moderne. Mais les faits accomplis se présentent à nous avec une bien autre netteté que les faits en voie d'accomplissement. Le témoin, face à des faits en train de s'accomplir, normalement ne peut pas arriver à en dégager le sens ultime. C'est ce que, néanmoins, prétend faire Chateaubriand. Et c'est, a fortiori, ce que prétend faire Marx dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon, de Louis Bonaparte. C'est un projet qui, dans son énoncé même, le projet de ce petit ouvrage, hein, se veut paradoxal, puisqu'il parle d'un événement historique, mais au fond, ce que veut montrer Marx, c'est la nullité, hein, l'absence complète de signification des acteurs historiques concrets. Le modèle explicatif privilégié par Marx, c'est clairement celui de la science, au sens de la science physique, la science galiléenne, pour lesquelles les événements, tout ce qui se produit, ce qui arrive, n'est que la concrétisation d'une loi générale. Donc l'explication scientifique a pour modèle les lois de la nature, en l'occurrence donc pour l'histoire ce sera la loi de la lutte des classes, mais qui est une loi naturelle, c'est-à-dire de lois inexorables, nécessaires, de rapports qu'on peut éventuellement quantifier, et donc qui produisent inévitablement leurs résultats. Et donc ici, l'événement, c'est les quelques journées du coup d'État, finalement, de 52, est un prétexte, ou du moins un échantillon, qui permet une sorte de vérification expérimentale de la théorie. Exactement comme le physicien qui formule une hypothèse va construire un dispositif expérimental pour s'assurer que ce qui arrive est bien conforme à son hypothèse. Marx va prendre le coup d'État de 1852, de décembre 52, comme une espèce d'expérience permettant de vérifier une loi, type loi naturelle, une loi générale, qui est la théorie selon laquelle l'histoire est régie par la lutte des classes. Et il faudra réfléchir sur les analogies évidentes entre ce projet et l'idée de providence de Chateaubriand, l'idée d'un sens global de l'histoire humaine, et puis évidemment sur les différences induites par leur point de vue respectif. Donc si on prend un peu de recul, on peut voir que ces trois œuvres, bien distinctes par leur genre, par leur origine, par leur finalité, etc., dessinent une sorte d'arc. On passe d'une histoire qui est entièrement conçue sous le régime de l'art, de la création poétique, à une histoire qui est conçue comme une entreprise scientifique. On passe de certaines actions singulières, très localisées dans le temps et dans l'espace, qui ont une forme d'exemplarité morale, à la nécessité universelle de lois scientifiques qu'on peut vérifier à travers des événements singuliers. On passe d'une histoire qui s'accomplit à travers l'action de héros, les Horaces comme acteurs principaux de la destinée de Rome à un moment donné, comme contribuant de manière décisive à ce que sera Rome plus tard, donc une histoire qui s'accomplit à travers des actions héroïques, à une histoire qui s'accomplit dans un jeu de forces naturelles aveugles, où les individualités ne peuvent que profiter de circonstances, de situations qu'elles n'ont absolument pas contribué à créer. C'est comme ça qu'on peut expliquer qu'un personnage médiocre, nul, comme Napoléon III, puisse parvenir au pouvoir. Mais également, l'idée derrière ça, évidemment, c'est que ce qu'il fait, le sens de son action, lui échappe totalement. C'est pas lui qui peut dire ce qu'il est en train de faire et ce qui s'accomplit dans ce coup d'État. C'est le regard de Marx. Et dans cet arc, on voit comment, on pourrait dire, le sujet qui fait l'histoire, ce qui va intéresser l'historien, c'est beaucoup moins tel noble chevalier romain que les variations du régime de la propriété foncière. Pour prendre un exemple extrême. Et c'est pour ça qu'à travers cet arc dessiné par les trois œuvres, on peut, je crois, commencer à repérer les questions principales auxquelles invite le thème, penser l'histoire. Ce qui me paraît intéressant, ce qui est commun aux trois œuvres, c'est que elles ne proposent pas simplement de raconter une histoire. Un modèle de l'histoire, c'est le récit. Je fais encore des annonces de programme, mais la question du récit, c'est fondamental dans le problème de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire et comment on écrit l'histoire, etc. Notamment parce qu'un récit, ce n'est pas le même régime qu'une explication scientifique. Il n'y a pas de récit, on ne raconte pas d'histoire dans les bouquins de physique, etc., ou de chimie. Donc, on voit qu'il y a une tension. Et le texte de Marx, même s'il est présenté comme un récit, on voit à certains moments comment, à la limite, on pourrait le mettre pratiquement en équation, c'est-à-dire résumer son propos avec des graphiques. Donc, quelle est la place du récit et quel est le statut du récit du fait de raconter ? En tout cas, ces trois œuvres, donc, se proposent pas simplement de raconter une histoire. Elles vont au-delà d'un simple récit des événements. Le modèle d'écriture historique qui serait aux antipodes de ce que font chacune à leur manière ces œuvres, c'est le modèle de la chronique. La chronique, c'est l'ancienne forme d'écriture de l'histoire, dans laquelle, au fond, on se contente de faire correspondre une date et un événement. Donc le chroniqueur, c'est celui qui dit, le 29 septembre, conférence à Brévent, le 30 septembre, victoire écrasante de la France contre la Géorgie, etc. Enfin, donc ça, c'est un aspect chronique. On a une trace historique de ce qui s'est passé. Il faut être témoin pour pouvoir, ou en tout cas interroger des témoins pour savoir qu'est-ce qui s'est passé tel jour, etc. Bon. Les chroniqueurs anciens s'intéressent rarement aux matchs de rugby, encore plus rarement aux conférences à Brévent, mais on va s'intéresser évidemment aux événements de la vie politique. Donc, et là aussi, on verra la tension avec Corneille, on est en plein dans l'histoire politique. Avec Chateaubriand, c'est une histoire politique qui commence à devenir également une histoire sociale, puisqu'il y a des catégories entières de population de la société qui sont en jeu. Et puis, avec Marx, on a en quelque sorte l'effacement complet de l'histoire politique au profit de l'histoire économique. Donc, on n'est pas dans la chronique, on n'est pas dans une écriture d'annales, simplement, où on va donc dire ce qui s'est passé chaque année, etc., mais dans une succession d'événements qui sont sans suite, sans lien intelligible entre eux. Si moi, chroniqueur, je dis 29 septembre, conférence à Brévent sur penser l'histoire, 30 septembre, victoire de la France contre la Géorgie, les événements, il n'y a aucune intelligibilité, il n'y a aucun sens qui se dégage de ça. On est dans la pure juxtaposition temporelle d'événements qui n'ont d'autre lien que le fait de se succéder, ou plutôt d'arriver à des moments différents. Alors que dans les œuvres du programme, à chaque fois, l'auteur dégage un certain sens. Autrement dit, son entreprise vise à faire ressortir une forme d'intelligibilité, même si c'est à chaque fois une intelligibilité de manière de nature différente. Intelligibilité morale, si on veut, chez Corneille, c'est le conflit moral qui donne le sens de l'événement, qui en est la structure, la colonne vertébrale. On a dépouillé l'événement de tout ce qui était extérieur à ça pour ramener l'événement qui, dans sa richesse historique, évidemment, pouvait présenter beaucoup d'autres facettes, on l'a ramené à une action dans laquelle sont impliqués plusieurs caractères autour d'un unique conflit. Donc, une intelligibilité donc, qui tient au caractère et aux enjeux moraux chez Corneille, qui tient au fond à l'action de la Providence chez Chateaubriand, qui tient à la lutte des classes et au rapport de force économique chez Marx. Alors, cette intelligibilité, cette dimension a un autre aspect qui me paraît intéressant également. L'action de Corneille se passe à Rome ou dans la campagne romaine, disons, hein, dans un petit bled de l'Italie. Chateaubriand, le théâtre, c'est la France. Et puis Marx, on peut dire le théâtre, c'est la France, c'est le coup d'État parisien, mais en fait, c'est pas ça. Parce que chez Marx, au fond, l'acteur principal ou la signification, c'est quelque chose qui a un sens dans l'histoire du prolétariat. Donc dans une catégorie socio-économique qui n'est pas limitée à un temps, un lieu déterminé. Et par conséquent, il y a une espèce d'universalisation croissante de l'intelligibilité qui est offerte. Puisque l'événement, le coup d'État de Bonaparte, de Louis-Napoléon, au fond, est un épisode de l'histoire universelle, entendue comme histoire de la lutte des classes et histoire de l'accession progressive mais inéluctable du prolétariat au pouvoir. Et par conséquent, en ce sens, on peut dire que il y a chez Marx une manière de penser l'histoire qui est un sens qui est un des sens du sujet, c'est-à-dire c'est penser l'histoire universelle. L'événement singulier, apparemment contingent, est articulé à la totalité de l'histoire de l'humanité. Évidemment, au profit de simplifications ou de sur lesquelles il faut s'interroger, hein, parce que c'est pas la Chine, c'est pas, enfin il y a un gros reste, hein, mais dans le projet, au fond, c'est bien un épisode de l'histoire de l'humanité qui est en train de se produire. Et c'est ce qui lui permet de saisir que à partir de cet exemple ou de ce cas, une des dimensions du thème de l'année à étudier à travers chacune des heures, c'est au fond l'articulation du particulier et de l'universel. On y reviendra souvent, je pense, parce que c'est vraiment un des aspects, disons, dans les concepts mis en jeu, c'est une paire de concepts qui est indispensable. Le particulier et l'universel. Alors, je vais développer un petit peu ça, et puis évidemment, l'autre paire de concepts qui est indispensable, c'est le passé et le présent. Chacune de ces œuvres étant au fond une certaine manière de chercher notre présent dans le passé. Alors, particulier universel, j'ai peut-être terminé là-dessus, et puis développer un petit peu aussi présent dans le passé, mais pourquoi c'est fondamental ? C'est fondamental parce que l'histoire, en tant que discipline savante, a priori, n'appartient pas au genre de la science. On a là une tradition très ancienne qui remonte à Aristote, selon laquelle il n'y a de science que de l'universel. C'est-à-dire qu'on ne peut pratiquer une entreprise de type scientifique que face à des phénomènes qui se produisent toujours et partout de la même manière. Donc l'objet scientifique par excellence, en ce sens, c'est, en excluant la question des mathématiques et des nombres, etc., mais qui rentre aussi dans ce cas-là, mais c'est le mouvement des astres. Le mouvement des astres n'est pas soumis à l'histoire, hein, et il est toujours le même. Il est sans contingence. Il obéit à une nécessité, et par conséquent, on peut le prévoir et on peut l'expliquer en se référant à des causalités universelles. Alors que l'histoire humaine semble entièrement du côté du particulier, du singulier. Les circonstances changent, ne se retrouvent jamais deux fois les mêmes, les caractères changent, les actions ont lieu dans des circonstances qui sont contingentes. il est entièrement contingent que, je ne sais pas moi, vous rendez à Brévent et puis vous arrivez, vous ratez le métro, vous êtes en retard. Ça aurait pu ne pas vous arriver, vous auriez pu partir 2 minutes plus tôt de chez vous, mais il aurait fallu pour ça que vous n'ayez pas envie justement d'écouter la radio pour entendre la fin d'une chanson ou je ne sais pas quoi. Toute une série de choses qui sont entièrement particulières, qui tiennent aux particularités de votre caractère, aux cas dans lesquels vous vivez, au fait qu'à ce moment-là, telle personne passait par-ci, par-là, etc. Bon. Et donc, on est entièrement dans le particulier. Et donc, les événements historiques sont par définition uniques. Ils ne se répètent pas. Alors que le soleil se lève tous les matins et que par conséquent, on peut étudier, on peut prévoir, on peut chercher à expliquer, le fait qu'il n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de l'humanité que vous vous rendiez à Brévent un 29 septembre pour passer la soirée. Et donc, il semble que les événements historiques soient à l'opposé de ce qui les rendrait susceptibles d'une explication de type scientifique. Et donc, tout l'enjeu de l'existence d'une science historique, ou d'une approche savante de l'histoire, ou d'un métier d'historien, est précisément d'arriver à dépasser la particularité, la singularité, pour trouver une forme d'universalité. Et alors, il me semble que les trois œuvres, chacune à leur manière, cherchent cette forme d'universalité. L'universalité de l'exemplarité morale, dans le cas de Corneille, et par conséquent le fait que ce qui est arrivé à des anciens romains a une portée qui dépasse leur époque et qui parle aux contemporains de Corneille. Signification universelle des événements de la Révolution, j'en ai parlé tout à l'heure. Signification non moins universelle, ou encore plus universelle plus même, du coup d'État de décembre 52, dans la mesure où il est une étape, un épisode d'une loi, d'une évolution générale de l'histoire humaine. Et par conséquent, dans les trois cas, mais de manière évidemment extrêmement différente, hein, le particulier est acquiert une portée universelle. Pour arriver à cette universalisation du singulier, paradoxal au regard de la richesse de la matière historique, à chaque fois, l'auteur, celui qui écrit, doit en un sens aller au-delà des apparences. Pour comprendre le contraste ou l'effort qui est exigé de celui qui essaye de donner un sens à l'histoire, ou en tout cas un sens à une histoire, il faut voir que il est confronté a priori à une matière entièrement diverse, entièrement singulière, bigarrée, riche, hein, en même temps que, imaginez, enfin, si vous vous situez mentalement, peut-être c'est plus facile maintenant avec le cinéma, hein, dans le passé historique des Horaces et des Curias, évidemment, hein, la scène de théâtre est totalement dépouillée. Vous n'avez que quelques acteurs, une action qui s'exprime entièrement dans des paroles, une unité, comme vous le savez, de lieu, de temps et d'action, justement. Mais dans la réalité, si tant est que l'événement s'est produit, il est arrivé évidemment une foule de choses en même temps. Et peut-être qu'il y avait un Écurias qui s'était tordu le pied, et peut-être que Camille était mal peignée ce jour-là, et peut-être que sa servante s'était pris, je sais pas quoi, le pied dans un tabouret, et peut-être que au même moment, à l'autre bout de la ville, je sais pas quoi, il y avait n'importe quoi, un porcelet tombé dans la baignoire. Enfin bref, la matière historique en elle-même offre une bigarrure, une multiplicité, une richesse qui paraît rebelle, hein, à l'universalité. Et donc, donner un sens à l'histoire, donner une intelligibilité, et donc, en ce sens-là, hein, penser l'histoire, dégager le sens qui s'y trouve, c'est aller au-delà des apparences. Hein, c'est, si on veut, c'est abstraire, c'est dépouiller, c'est identifier ce qui est vraiment essentiel, ce qui se passe vraiment, par rapport à ce qui a beau arriver, n'a pas de signification particulière. Et c'est ce que fait Chateaubriand également dans les Mémoires d'Outre-Tombe, lorsqu'il veut justement montrer comment il y a une espèce de dessin qui s'effectue à travers la complexité des situations, des rapports de personnes, etc. Et c'est évidemment ce que fait Marx. Ça a donné lieu à, dans la réflexion contemporaine sur l'histoire, à une grande une distinction qui a une portée, enfin qui est assez éclairante, la distinction entre ce qu'on appelle, enfin entre expliquer et comprendre, entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Donc je dis un mot, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que ça vous est familier, Diltaï, vous en avez parlé, enfin les profs vous en ont parlé, pas tellement, du tout, ça vous dit rien. Bon. Donc, Diltaï, D-I-L-T-H-Y, a beaucoup réfléchi sur la singularité des... Enfin, s'est confronté, disons, au problème de la scientificité de l'étude de l'homme. Le modèle explicatif par excellence, c'est celui des lois scientifiques, dans lesquelles on a expliqué un phénomène naturel lorsqu'on a pu le ramener sous une loi universelle. Donc ça veut dire que chaque fois que un phénomène du même type se produira, la même loi s'appliquera, et donc le même type d'explication pourra être fourni. Donc dans la distinction proposée par Diltaï, donc les sciences de la nature sont dans l'ordre de l'explication. Tel événement A s'est produit parce qu'il obéit à une loi universelle lambda. Tel événement A s'est produit parce qu'il a été précédé par une cause Z. Et donc, quand on a l'événement et sa cause, on a fourni, on a trouvé l'explication. En revanche, dit-il, son intérêt, son but à lui est de montrer qu'il y a une forme de scientificité, y compris dans l'étude de l'homme. Donc, quand il s'agit d'événements ou d'actions humaines, on ne peut pas fournir des explications. On est, dit-il, dans le registre de la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, ça veut dire que face à des actions humaines, nous ne pouvons pas rechercher la cause, l'événement qui l'a précédé et qui l'a déclenché. Nous pouvons chercher à saisir les raisons de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que voulait faire l'agent, quelles étaient ses motivations, quelles étaient ses intentions. Et c'est lorsque nous comprenons ses intentions, ses motivations, que nous comprenons l'action, que nous comprenons l'événement. Autrement dit, même si tout ça devra être raffiné, l'a été par la suite, etc., il faut une capacité à, en un sens, se mettre à la place de l'autre. Il y a une forme d'empathie. Christophe, tu peux y aller parce que c'est peut-être pour moi. Il y a une forme d'empathie qui est nécessaire pour pouvoir se dire comment est-ce que ça a pu se produire, comment est-ce que ces événements ont pu se dérouler. Eh bien, c'est que machin voulait faire ça, avait tel intérêt, etc. Et donc, on n'est plus dans l'ordre des événements extérieurs qui se déroulent et qui se succèdent, dont certains entraînent d'autres événements extérieurs, on est dans la compréhension des raisons, des motivations intérieures. Donc en ce sens, l'explication historique, ou l'histoire, va au-delà des apparences parce que, en tout cas c'est une manière de la comprendre, on doit rentrer en quelque sorte dans l'intériorité des acteurs historiques. Et c'est ce qui va donner lieu donc à cette grande distinction entre les sciences de la nature et puis les sciences de l'esprit, ou sciences morales, dont fait partie l'histoire, grande typologie allemande, qui a encore une valeur, qui est encore très intéressante, même si elle a des limites. Je termine simplement, puisque le temps est écoulé, pour quelques mots sur l'autre grand couple de concepts qui me semble fondamental et qui fait en plus la particularité de l'histoire, par opposition, par distinction à d'autres activités, d'autres disciplines, d'autres sciences humaines. Donc j'ai parlé de rechercher l'universel dans le particulier, mais également rechercher le présent dans le passé. au sens où, dans les trois œuvres qui nous sont proposées, en un certain sens, ce qui motive la recherche du sens de l'événement, c'est une préoccupation de contemporain. On cherche dans l'événement passé quelque chose qui offre un sens, une clé, une orientation pour maintenant, pour aujourd'hui. Donc présence du présent dans le passé, pour Corneille, ça veut dire possibilité de projeter en quelque sorte des conflits moraux de son temps dans un cadre historique lointain, qui permet de les, justement, avec un effet de recul, qui permet de prendre de la distance, et donc également de dépouiller, d'épurer en quelque sorte le problème. Et puis, pour le cas de Chateaubriand et de Marx, c'est encore plus clair, à chaque fois, il s'agit d'événements, enfin de réfléchir sur des événements dont les personnes qui écrivent sont des produits plus ou moins directs. C'est notre présent à chaque fois qu'il s'agit d'éclairer en remontant aux événements qui ont constitué ce présent. Autrement dit, on se demande comment est-ce que nous avons pu en arriver à la situation où nous en sommes maintenant. Et dans toute entreprise historique d'envergure, on peut dire, c'est peut-être la quête première. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions à aujourd'hui? Dans le cas de Chateaubriand, évidemment, c'est qu'est-ce qui est arrivé pour que nous arrivions à la France moderne, la France qui a définitivement tourné le dos à la monarchie. Bon, il écrit dans les années 1840-50, par là, donc après la Restauration, l'échec de la Restauration. Et puis dans le cas de Marx, évidemment, il écrit dans la perspective de la Révolution. La Révolution future, la Révolution à venir, dont on doit pouvoir apercevoir les premiers signes dans l'épisode de 1852. Est-ce que vous avez des questions, des perplexités ?
Ça veut dire qu'un événement ne peut pas se reproduire deux fois ? Et par exemple, ici on est là le 29 septembre, il se peut que le 29 septembre l'année prochaine on soit ici.
Alors c'est vrai, mais il y aura une foule de différences. Chez vous, chez moi, on aura pris un an de plus. On n'aura plus le même président, mais c'est pas vrai. Le contexte aura complètement changé, c'est-à-dire que ce ne sera pas le même événement. Il y aura une différence qualitative essentielle, ne serait-ce que parce que lorsque vous reviendrez l'année prochaine, même si je refaisais la même conférence, vous n'auriez pas le même vécu de cette conférence, puisque vous vous diriez, mais il répète exactement la même chose qu'il y a un an. Chose que vous ne vous êtes pas dit au début de la conférence. Donc, ce qui se déroule... Enfin, je pense. Donc, c'est-à-dire que ce qui se déroule, évidemment, il peut y avoir... C'est évidemment...
Si on prend une caméra, on verra la même chose.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut se dire que le regard, l'œil de la caméra n'est peut-être pas la prise. Justement, c'est là qu'on se rend compte que la caméra passe à côté. Puisqu'en effet, elle ne peut pas distinguer, à la limite, entre un événement et une reconstitution cinématographique parfaite, par exemple.
Ouais.
Donc c'est justement là où tout ce qui échappe à la caméra, c'est justement ça la matière de l'histoire. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ressemblances entre des événements historiques. Et si je me souviens bien, le 18 Brumaire de Bonaparte, ça commence justement par la phrase fameuse suivant laquelle l'histoire répète, les événements se produisent toujours deux fois, mais une fois comme tragédie et une fois comme comédie. Donc, il y a l'idée, Napoléon III, c'est le remake de Napoléon Ier, mais une fois c'était dramatique et grandiose, et la deuxième fois c'est ridicule et mesquin. Et donc, évidemment, il y a un intérêt de l'histoire, c'est justement de rechercher des espèces de séquences où notre situation est comparable à ce qui c'est la situation par exemple dans les pourquoi est-ce que les militaires étudient les batailles du passé? Parce qu'ils voient dans les batailles du passé des configurations exemplaires qui leur permettent peut-être de se rendre en disant au fond notre situation est la même que celle d'Hannibal face aux Romains à la bataille de Cannes, donc on va réfléchir un peu et on va faire pareil. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas une singularité, il y a une singularité absolue qui n'exclut pas des ressemblances globales. Mais la condition historique, ça signifie essentiellement que nous ne sommes jamais les mêmes. Les événements ne sont jamais les mêmes et tout ce qui se passe n'a pas pu ne pas arriver. Ne peut plus passer et par conséquent à déterminer ce qui est arrivé ensuite. C'est pas super clair.
Si, si. C'est juste pour l'universalité dans les 3 heures et la recherche de l'universalité. Donc, vous avez dit qu'il y avait l'universalité morale pour Horace, que dans Dark c'était plus des lois universelles. Pour Chateaubriand, j'ai pas retenu.
Ah, je crois que l'idée c'est simplement. L'idée c'est. Enfin, on pourrait le dire de plusieurs manières, mais fondamentalement, c'est l'idée qu'il y a une série d'événements dont il est le témoin, mais qui ont une signification, une portée universelle. C'est-à-dire qu'il est en train de s'accomplir quelque chose que la postérité retiendra, qui est en gros la Révolution française, le passage de l'Ancien Régime à la France moderne. Donc là, l'universalité, elle est dans le fait que il ne se contente pas d'accumuler... si ça avait été un pur journaliste, qui tenait son journal. Imaginez, enfin ça existe, un journaliste un peu mondain qui dit, voilà, aujourd'hui j'ai été à l'Assemblée, voilà ce qui s'est passé, puis j'étais chez la Duchesse de machin chouette, elle m'a présenté sa fille, puis etc. Bon. Une accumulation comme ça, on reste dans le contingent, dans le singulier, etc. Alors que lui, il cherche un sens au-delà de tout ça. Et donc les événements sont rapportés en tant qu'ils sont des indices pour dégager un dessin universel, donc qui dépasse à chaque fois les événements singuliers.
Enfin, je veux juste dire, c'est-à-dire que le même événement fait deux fois par les mêmes personnes est différent simplement parce que les personnes elles-mêmes sont différentes à l'intérieur.
Mais c'est-à-dire que tout est différent.
Même si c'est deux fois la même chose, quoi. Juste le fait que les personnes soient différentes, même si elles font la même chose, ça sera différent, quoi.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, ce serait un peu bizarre de dire. Bon, tu vois, je sais pas, tu me brosses les dents tous les matins.
C'est pas des.
D'accord, en même temps, c'est pas des événements historiques. Donc, tu vois, enfin bon, ce que je veux dire, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on pourrait dire, à part le fait que j'ai un jour de plus, c'est le même événement. Et je pense que c'est tout à fait légitime. En revanche, quand on parle d'événements historiques, au sens d'événements donc, qui ont cette espèce de... Hein, qui se dépassent en quelque sorte eux-mêmes pour accéder à une... Hein, qui ont, en gros, qui vont changer le cours de l'histoire. Hein, c'est-à-dire le fait que ça soit arrivé... comment dire, le fait que ça soit arrivé modifie ce qui arrivera ensuite. Hein, l'événement historique, c'est un événement qui a une signification au sens où s'il n'était pas arrivé, la suite n'aurait pas été la même. Et en ce sens-là, il y a une espèce de... À chaque fois, il y a un cliquet, il y a quelque chose d'inéluctable qui s'est accompli. On en reparlera, c'est intéressant. De toute façon, c'est des questions, tu sais, en philosophie aujourd'hui, qui sont extrêmement débattues. Le problème de l'identité des événements, est-ce qu'il peut y avoir deux fois la même chose, etc. Enfin, c'est des vraies questions.
Bon, merci beaucoup Vincent. Il va falloir qu'on y aille.
Merci beaucoup de votre patience.
Je crois que c'est super instructif, surtout pour moi qui n'ai pas lu les livres.
Donc il faut quand même les lire. Lisez au moins pour la prochaine fois. Enfin, Chateaubriand, c'est vraiment marrant. Donc, c'est pas un pinsum. Hein. Le soir, vous lisez. De toute façon, il faut lire minimum 5 pages par jour, hein, dans une vie d'homme. Donc, vous lisez ça petit à petit. Enfin, ça se lit vraiment. C'est hyper bien écrit. C'est marrant. C'est savoureux. Donc, c'est sympa.
Donc, rendez-vous le 13 octobre.
Merci beaucoup.
Et donc là, on a méditation, il me semble, donc pour ceux qui veulent, c'est dans l'oratoire. Donc un étage en dessous, au même endroit.
Ah
non, ça va.